Avignon, c'est l'impie Babylone, l'enfer des vivants, la sentine des vices, l'égout de la terre. On n'y trouve ni foi, ni charité, ni religion, ni crainte de Dieu, ni pudeur, rien de vrai, rien de saint. Diatribe de Pétrarque contre la présence de la papauté en Avignon.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
À côté des villes dont il a été question lors de la précédente chronique, il y a aussi des grands états territoriaux qui se constituent dans le panorama politique italien. En premier lieu, la Sérénissime République de Venise. Celle-ci n'est pas seulement une puissance à l'échelle italienne, mais elle est aussi considérée comme une puissance sur le plan européen. Installée à Constantinople et en Terre Sainte au moment des croisades, Venise entreprend une politique à la fois vis-à-vis de la terre ferme, c'est-à-dire l'intérieur de la péninsule, et en Méditerranée, au point que l'on peut utiliser l'expression d'empire colonial vénitien. Sur la terre ferme, elle soumet Trévise et Padoue en 1215, prend Trieste en 1280, s'empare de Vicence et de Vérone entre 1404 et 1406, de Crémone, Brescia, Bergame en 1438. Entre-temps, le Frioul est annexé en 1430. Mais la puissance vénitienne s'affirme également dans l'Adriatique et en Méditerranée orientale. Les Vénitiens s'implantent en Crète en 1204 et font de l'île une étape importante sur les routes maritimes vers le Proche-Orient et l'Égypte. En 1489, l'autre grande île de la Méditerranée orientale, qu'est Chypre, entre au sein de la souveraineté vénitienne, à proximité de l'Empire ottoman. En 1401, Venise fait de Corfou le verrou de l'Adriatique qu'elle considère comme sa mère personnelle. La puissance vénitienne s'organise autour d'institutions stables, mélange de monarchie, d'aristocratie et, de moins en moins, de démocratie. À la tête de l'État vénitien, le doge, élu à vie, portant le chapeau ducal, manteau de pourpre et chaussures rouges. Chaque jeudi de l'Ascension, il monte sur le vaisseau, le Bucentaure, et jette son anneau dans l'eau de l'Adriatique en symbole d'épousailles avec la mer. Voisin à l'ouest de la République de Venise, le duché de Milan. Celui-ci est proclamé, après diverses tribulations politiques, en 1395, au profit des Visconti jusqu'en 1447, puis des Sforza. État le plus peuplé d'Italie, Milan compte environ 200 000 habitants au milieu du XVe siècle. Le duché prospère grâce à une agriculture irriguée qui permet la culture du riz et des industries textiles qui fournissent des draps, des tissus, de velours, des brocarts d'or. Déjà réputé pour des arsenaux d'armes et de bombardes, Milan est doté par Francesco Sforza d'une puissante forteresse, il Castello Sforzesco. Francesco Sforza et ses successeurs, Galeazzo Maria, assassiné en 1476, et Ludovic le Mort, fondent la cour de la capitale lombarde, une des plus brillantes d'Europe. Quitte à ce que la modestie ne soit pas le fort du pouvoir milanais, lorsque Ludovic le Mort déclare que le pape est son chapelain, l'empereur son condottiere, Venise son chambellan, le roi de France son courrier. Au centre de la péninsule s'impose Florence. Celle-ci est le prototype de la cité-État, mais qui étend sa puissance aux contrées voisines. Elle se rend maîtresse d'Arezzo en 1384, annexe Pise, affaiblie par sa défaite contre Gênes, et bénéficie ainsi des ports de Livourne et de Porto Pisano. À la suite d'une longue lutte entre les partisans de l'empereur et ceux du pape, elle réussit à se maintenir comme une véritable puissance au centre de la péninsule. À partir de 1293, les grandes familles de la bourgeoisie d'affaires florentine dominent la vie publique de la ville. Elles représentent les arts majeurs que sont le travail de la soie, de la laine, des fourrures, le commerce des épices venues d'Orient, les activités bancaires qui font des banques florentines les prêteurs de la papauté. Parmi ces grandes familles, les Peruzzi, les Alberti, les Albizzi, les Strozzi, les Pitti et bien sûr les Médicis. Ceux-ci vont être véritablement les maîtres de la cité au XVe siècle, dans la seconde moitié du XVe siècle, entre 1434 et la fin du siècle. Pour leur part, les États pontificaux forme une puissance spirituelle et temporelle, le pape étant à la fois pasteur de l'Église et vicaire du Christ, mais également souverain temporel de ses États. Les États du pape prennent en écharpe la péninsule italienne. Ils sont composés de plusieurs légations. Le patrimoine, dit de Saint-Pierre, autour de Rome, Viterbe et Orvieto, le duché de Spolète avec Assise et Pérouse, et qui correspond à l'Ombrie, la marche d'Ancône où se trouve le duché d'Urbino, la Romagne avec la ville de Bologne, enfin l'enclave de Bénévent au sein du royaume de Naples. En germe au XIIe siècle, les ambitions théocratiques des pontifes s'affirment au XIIIe siècle, en particulier avec le pontificat d'Innocent III, 1198-1216. Le principe est que les princes chrétiens doivent obéissance et reconnaissance de suzeraineté au pape, qui, en tant que vicaire du Christ, se veut supérieur aux princes temporels. Ces ambitions sont contestées et provoquent des tensions, en particulier avec la couronne de France. Les légistes de Louis IX, et encore plus nettement ceux de Philippe IV le Bel, affirment que le roi de France est empereur en son royaume et ne doit de compte à personne sur le plan temporel, sinon à Dieu. La controverse, qui devient une opposition frontale avec le pape Boniface VIII, tourne en défaveur du pontife. La crise entre la monarchie française et la papauté favorise l'installation de celle-ci à Avignon à partir de 1309. Il faudra attendre le dernier tiers du siècle pour voir les pontifes revenir à Rome, souvent pressés par Catherine de Sienne, qui écrit à Grégoire XI « Ne résistez plus à la volonté de Dieu, car les brebis attendent, affamées, que vous reveniez au siège de Saint-Pierre, vicaire de Jésus, vous devez reprendre votre propre siège. » Cela sera finalement fait en 1377, mais entre-temps, il y aura eu des volontés d'organiser une véritable commune à Rome. C'est en particulier la figure de Cola di Rienzo qui va représenter cette volonté de constituer une république romaine, mais cela se terminera tragiquement puisqu'il sera assassiné en 1354. Au sud de la péninsule se trouve le royaume de Naples. Après les règnes de Frédéric II de Hohenstaufen, qui meurt en 1250, et de son fils Conrad, l'État napolitain passe sous la souveraineté de Charles Ier d'Anjou, frère du roi de France Louis IX. Son autorité sur la Sicile ne résiste pas à la révolte dite des Vêpres siciliennes de 1282, qui fait passer l'île sous le contrôle de la couronne d'Aragon. La dynastie angevine se recentre donc sur le seul territoire couvrant la Calabre, la Campanie, la Basilicate, les Pouilles et jusqu'au sud des Marches. Capitale de 50 000 habitants en 1300, de 150 000 à la fin du XVe siècle, Naples profite de la présence du pouvoir royal pour développer un artisanat de luxe et des chantiers navals autour du cap Santa Lucia. Le règne de Robert d'Anjou entre 1309 et 1343 marque une apogée du royaume. Capitaine général des États de l'Église, protecteur de Pétrarque, il parvient à attirer des marchands vénitiens, génois, florentins. Mais en 1443, le destin politique de l'État angevin bascule. Alphonse d'Aragon parvient à chasser René d'Anjou. Ainsi se constitue un vaste ensemble méditerranéen allant de Barcelone à Palerme, en passant par les Baléares, la Sardaigne et Naples. De ces grands États s'affrontent régulièrement pour asseoir une domination sur une partie de la péninsule. Mais à la fin du siècle, va arriver un événement important. Les troupes du roi Charles VIII viennent de pénétrer dans la péninsule. Nous sommes au printemps 1494.